Soyez les bienvenus à Pergame, ville d'art et d'histoire. Mon nom est Mathias. Je suis responsable du programme immobilier. Chacun sa maison, chacun sa religion. Ave César, si t'y crois pas, t'es au placard. Oui, alors je sais, c'est un peu long, mais c'est à l'image de notre grande ville, capitale de la province d'Asie. Une ville faite de grandeur. Alors, chers amis, vous souhaitez habiter à Pergame, vous souhaitez faire construire, comme on dit, eh bien, vous avez raison. Parce que Pergame offre un site incroyable. Elle est édifiée sur une hauteur de 350 mètres. Nous surplombons, tel un trône royal, toute la vallée. Pergame, une somptueuse cité, composé de trois parties que vous aurez la joie de découvrir. La partie haute concerne les bâtiments administratifs. Vous y trouverez le théâtre, le temple de Dionysos, d'Athéna, le grand hôtel de Zeus, et bien sûr l'administration. Dans la partie moyenne de la ville, vous trouverez le gymnase et d'autres temples encore. Vous voyez, nous sommes très tolérants. Très, très tolérants. À tel point que notre devise pourrait être tolérance, tolérance. Enfin, presque. En fait, nous ne tolérons pas ceux qui ne tolèrent pas la tolérance des multiples dieux. D'ailleurs, savez-vous que nous sommes les premiers à avoir honoré un empereur en édifiant un bel édifice, un beau temple pour lui ? Quel esprit d'ouverture, n'est-ce pas ? Quelle joie de vivre dans une telle ville ! Et dans la partie basse de la ville, vous aurez la joie de faire du shopping dans le superbe centre commercial tout neuf. Vous verrez, à Pergame, la vie est très agréable. Nous y mangeons bien, nous vivons bien au niveau culturel. Nous avons une grande bibliothèque, presque aussi grande que celle d'Alexandrie. Vous aurez aussi la joie de vous prélasser dans les cures thermales avec ses bains. Vous pourrez aller voir notre dieu Asclépios, dieu de la guérison, avec ce petit serpent, symbole de la guérison, à tel point que nous avons un grand succès et nous avons fait de ce serpent le symbole de notre ville. D'un point de vue économique et social, vous verrez que Pergame est une ville agréable, le plein emploi, on travaille le dimanche, on fait ce que l'on peut, ce que l'on veut. Et comme je vous le disais, nous ne sommes pas très obtus en matière religieuse. Enfin, vous aurez le choix en matière religieuse. Enfin, pas tout à fait. Parce qu'il y a un minimum que l'on pourrait dire impérial. Mais enfin, ça. Alors nous avons tout un tas de divinités, je vous le disais. Athéna, Dionysos, Zeus et bien d'autres. Vous le voyez, nous sommes une ville très, très spirituelle. Nous pratiquons même le culte aux empereurs. Trajan, Auguste, Adrien font l'objet de nos prières, de notre adoration. Alors, qu'en pensez-vous ? C'est chouette, hein, de vivre à Pergame. Voilà, alors, j'ai les papiers ici, on peut lancer la construction si vous le souhaitez. Il vous sera demandé juste une petite chose, un petit détail pour vérifier que vous correspondez bien à l'esprit de Pergame. Juste un petit peu d'encens qu'il vous faudra lancer et confesser que César est Seigneur. Et hop, on signe le contrat et les constructions se lancent. Qu'en dites-vous ? Ah, vous êtes chrétien. Ah, alors là, cela risque d'être un petit peu plus compliqué. Voilà, chers amis, le contexte général, très adouci, très gentil, très sobre, de la ville de Pergame, contexte, dans lequel évolue l'église de Pergame, église à laquelle celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant s'adresse. Et c'est cette lettre, c'est ce message que je vous invite à lire maintenant, au chapitre 2 de la lettre de l'Apocalypse, pardon, et nous lirons les versets 12 à 17. À l'ange de l'église de Pergame écrit. Voici ce que dit celui qui a l'épée acérée à deux tranchants. Je sais bien où tu habites. C'est là que se trouve le trône du Satan. Tu es attaché à mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été tué chez vous, là où le Satan habite. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens attachés à l'enseignement de Balaam, qui enseignaient à Balak comment causer la chute des Israélites en les incitant à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se prostituer. De même, tu as toi aussi des gens qui sont pareillement attachés à l'enseignement des Nicolaïtes. Change donc radicalement. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je leur ferai la guerre avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Je vous invite à la prière. Notre Dieu et Père, rends-nous disponibles à entendre ta parole. Rends-nous disponibles à la mettre en pratique. Car Seigneur, elle est lumière sur nos sentiers. Amen. Voilà donc la lettre adressée à Pergame. Une lettre sous forme de trois messages. Le premier, c'est la fidélité. La fidélité éprouvée de l'Église. La seconde, c'est un compromis qui lui n'est pas éprouvé, mais réprouvé par le Seigneur. Et puis le troisième message, c'est la repentance comme chemin d'espérance. D'abord la fidélité. Jésus-Christ est Seigneur. Quatre mots que nous pouvons dire assez facilement, que nous avons chantés maintes et maintes fois ce matin. On peut le dire assez facilement dans notre temple. Il fait bon vivre entre nous. Et c'est vrai, je pense qu'il n'est pas personne parmi nous, à moins que je me trompe, qui va nous inciter à jeter un peu d'encens sur Marianne en proclamant que le président de la République est Seigneur ou que le Premier ministre est Seigneur. Il ne sera personne pour nous inciter à aller vers des fausses doctrines. Aussi, il pourrait être tentant de rapidement juger cette église de Pergame. Mais il ne faut pas oublier le contexte de l'Apocalypse. Ce sont des chrétiens de deuxième, troisième génération qui attendent le retour du Christ et rien ne se passe. L'oppression est là, la tentation est là de l'abandonner. La ville de Pergame abrite le trône de Satan. Drôle d'image pour décrire cette réalité qui règne à Pergame, le mensonge et la mort. Jésus lui-même disait de Satan qu'il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. L'adversaire règne à Pergame, mais comme ailleurs, l'actualité nous le montre bien. Il laisse planer sur cette ville des ténèbres de mensonges, des ténèbres de mort. Il y a le mensonge de ces titres qui reviennent en principe à Jésus-Christ et qui sont donnés à d'autres. Zeus, sauveur, Asclépios, le dieu guérisseur. Il y a aussi le mensonge de croire que ces divinités, que ces empereurs sont vivants alors qu'ils sont faits de statues bien jolies. Encore faut-il qu'ils soient encore entiers, mais ils ne sont faits que de mains d'hommes. Règne aussi la mort, Antipas en est le témoin. Il a payé de sa vie la fidélité. L'épée du pouvoir politique à Pergame sert le bien-être de la diversité religieuse. À celui qui refuse l'allégeance à l'empereur, le glaive tombe pour donner la mort. À celui qui s'y soumet, la vie lui est épargnée. Mais nous le savons, le Christ, le Seigneur, est bien plus grand qu'un simple empereur romain. D'ailleurs, ils ne sont plus que des statues, ces empereurs. Des statues parfois même sans bras, sans nez, sans tête. Ils sont au trépas depuis longtemps, ces chers empereurs, tant vénérés à l'époque. Ils ne peuvent plus rien contre l'Église. Alors c'est vrai, il est d'autres qui se sont levés, d'autres pour menacer l'Église avec une épée acérée, d'autres pour imposer à l'Église une forme de soumission. Certains de nos frères et sœurs, nous l'avons dit, le vivent réellement, concrètement, au quotidien. À Pergame, dans cet environnement royalement ténébreux, les chrétiens de l'Église ont tenu bon. Ils sont restés fermes, fidèles. Ils n'ont nié ni Jésus-Christ, ni renié leur foi. Ils ont compris et obéi cette parole de Jésus que l'on trouve en Matthieu 10. Ne craignez pas. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire disparaître et l'âme et le corps dans la Géhenne. Quiconque donc se reconnaîtra en moi devant les gens, je me reconnaîtrai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si quelqu'un me nie devant les gens, je le renierai moi-même devant le Père qui est dans les cieux. Comme les chrétiens de Smyrne, les chrétiens de Pergame ont tenu bon. Ils sont tenus rester fermes. Et aujourd'hui encore, Portes Ouvertes est le témoin, nous fait le relais de ces chrétiens qui tiennent bon face à la menace de l'horreur. Et l'actualité est là pour nous rappeler ce que l'homme est capable de faire même aux enfants. Les chrétiens de Pergame avaient le choix. Renier ou leur foi ou la mort. La vie ou la mort. La vérité ou le mensonge. Antipas, témoin fidèle, a tenu bon. Antipas, c'est vrai, était prêt à rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui lui revient, mais certainement pas l'inverse. Et c'est vrai, dire César est Seigneur, même si on croise les doigts, cela reste une confession de foi, témoignage que l'on a cédé au mensonge. Même face à la menace de la mort, les chrétiens de Pergame sont restés fermes. Témoignage du courage de la foi pour nous qui vivons aujourd'hui. Mais cette fidélité éprouvée est accompagnée dans la bouche de Jésus de la dénonciation d'un compromis qui lui est réprouvé. Il fait l'éloge, le Seigneur Jésus, de la fidélité de l'Église de Pergame, l'Église qui a su faire face aux menaces extérieures, mais qui a laissé germer en son sein une tolérance. Oh, pas une belle tolérance, mais une tolérance coupable pour des enseignants déviants, des personnes qui veulent entraîner les gens de cette Église à tout vent de doctrine. Doctrine telle celle d'Abalaam et des Nicolaïtes. Mais pourquoi Jésus parle de Balaam et Balak à l'église de Pergame? Ce sont des personnages de l'Ancien Testament, personnages qui sont eux aussi au trépas depuis un long moment, mais ce sont des personnages qui ont laissé leur marque dans l'Ancien Testament. Balaam est un personnage haut en couleur que l'on retrouve dans le livre des Nombres, au chapitre 22 à 24, texte que je vous invite à lire. C'est ce genre de personne, vous savez, qui est capable, contre quelques monnaies sonnantes et trébuchantes, à dire oui quand il faut dire oui et non quand il faut dire non. des personnes capables de suivre le courant, le vent de la majorité. Alors, quand Balak a eu le projet de faire chuter Israël, il a soumis cette mission à Balaam, qui était l'homme de l'emploi. Et vous connaissez certainement cette histoire de Balaam qui va aller maudire Israël, mais qui va finalement, par l'inspiration de Dieu, ne pouvoir que bénir. Non content de cela, mais content de cette mission échouée, il va revenir et dire à Balak son échec en proposant une autre alternative. Car s'il n'a pas réussi avec la parole, peut-être avec la vue et la séduction de jeunes filles du pays de Moab, pourra-t-il entraîner Israël dans l'infidélité ? Et ces deux personnes, ces deux comploteurs, savaient très bien qu'en faisant cela, en entraînant Israël dans l'infidélité et l'immoralité, c'était la colère de Dieu qui allait se manifester. Alors à Pergame, il y a des hommes qui sifflent cette stratégie. Ils susurrent le mensonge de fausses doctrines. Ils susurrent le compromis. Tolérer de plus en plus de choses. Nous le savons bien, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ils susurrent, comme ces Nicolaïtes qui étaient détestés à Éphèse mais tolérés à Pergame. Ils susurrent à l'oreille des chrétiens la facilité du compromis. Allez, juste un petit Ave César, ça ne coûte pas grand-chose. Ave César, ça vous garantit la tranquillité, la possibilité de vivre et la possibilité d'avoir un emploi. Oh, et puis on le sait bien, ce n'est pas des vrais dieux. Alors, nous on sait, on a la vérité. Dans ce marasme mensonger, comment vivre la fidélité, comment témoigner de sa foi? Et l'enjeu est de taille pour l'église de Pergame. C'est sa vie, son travail d'un côté, et sa foi. Car en fait, participer au culte de l'empereur, ce n'est pas anodin. Parce que c'est donner la gloire à une personne qui n'en est pas digne. Et c'est baisser la gloire qui doit revenir à Jésus-Christ. Le compromis coupable qui est proposé à l'église de Pergame est une tolérance intolérable pour le Seigneur Jésus. Fidélité à l'extérieur, compromis à l'intérieur, bouillonnant pour certains, froid pour d'autres, chaud et froid. Le chemin de la tiédeur guette l'église de Pergame. Et le couperet n'est pas si loin, sauf si elle change. Et c'est cela la bonne nouvelle qui est aussi adressée à Pergame, c'est le chemin de repentance, le chemin du retour à Dieu comme un chemin d'espérance. Car comme les prophètes de l'Ancien Testament, qui rappelaient à Israël l'amour de Dieu, la possibilité de revenir à lui, ainsi Jésus rappelle à Pergame la possibilité de revenir à son Dieu, à Jésus-Christ. Car le Christ est celui qui tient l'épée à double tranchant, la parole de Dieu vivante, agissante, qui tranche, qui juge les sentiments même les plus profonds. Vous le savez, l'épée romaine, le glaive, était assez court, et puis finalement, il ne pouvait pas aller bien loin. Alors c'est vrai, cette petite épée bien aiguisée peut faire trembler, mais elle demeure illimitée. Alors que l'épée, la parole de Dieu, va beaucoup plus loin. Elle est à double tranchant. Le tranchant qui perce nos carapaces, le tranchant qui perce nos protections, qui met à jour nos défaillances, nos péchés, non pas pour nous blesser et nous tuer, mais nous ouvrir à l'amour et au pardon de Dieu. Elle est tranchant du salut. Mais elle est aussi tranchant de la justice, de ce glaive qui donne justice, qui condamne le mal. Le Seigneur Jésus se montre ici comme ce cavalier ce cavalier justicier qui part à la bataille contre les ennemis de son Église. Et je ne sais pas si vous avez noté cette chose, mais le Seigneur dit deux fois à l'Église de Pergame qu'elle vit là où il y a le trône de Satan et là où Satan habite. Et il ne dit pas de partir. Il ne dit pas à cette Église, fuis donc ce lieu. Et il en est de même au verset 16. Le Seigneur Jésus ne dit pas à l'Église de Pergame de chasser les idolâtres, d'exclure ses faux frères. Il commande à toute l'Église de changer, de se repentir, de revenir à Dieu, de revenir sur le chemin de la fidélité. Mais comment comprendre ? Parce qu'en fait, c'est vrai, il y a juste une petite partie des chrétiens de Pergame qui sont un peu déviants. Une minorité dévie, et c'est toute l'Église qui doit changer. C'est un peu dur. Mais je crois que le Seigneur veut nous faire comprendre ici une chose. C'est que le chemin de la vérité sur lequel il nous invite à marcher est aussi parsemé d'amour et de pardon. Et comme à Éphèse, c'est toute l'Église qui doit gérer son problème. Toute l'Église qui doit marcher sur le chemin de la vérité. L'Église de Pergame pourrait très bien dire « Oh, allez, chassons ces personnages !» Mais le Seigneur ne l'invite pas à faire cela. Le Seigneur ne l'invite pas à faire l'économie de l'amour dans sa discipline. Faire discipline dans une église ne consiste pas à rendre l'église pure par le vide, mais à conduire le pécheur sur le chemin de la repentance. La repentance, le retour à Dieu, est ce chemin d'espérance. Alors c'est vrai, peut-être que l'église de Pergame devra exclure quelques membres pour la santé de toute son église, mais elle ne peut pas, elle ne doit pas glisser si facilement dans la facilité de vider de ses rangs tous ceux qui sont tombés. Car alors, il ne resterait que très peu de personnes dans cette Église. Si l'Église était faite de parfaits, de gens qui ne jamais ne chutent, je ne sais pas si je serais là en train de vous parler. L'Église de Pergame ne peut pas faire l'économie de l'amour dans sa quête de vérité. Pour ceux qui seront fidèles, pour ceux qui seront retournés à Dieu, le Seigneur promet des images pour témoigner cette espérance. Et des images qui sont assez intrigantes. La manne cachée, le caillou blanc, et le nom nouveau. Trois images difficiles à comprendre. Et s'il me semble elles sont difficiles à comprendre, c'est fait d'exprès, comme disent les enfants. Fait non pas pour que nous puissions appréhender tous les secrets de l'Apocalypse, mais pour que nous puissions lire l'Apocalypse avec les bonnes lunettes, celles de l'image apocalyptique. La manne cachée. Vous le savez bien, la manne était ce pain, cette nourriture qui était donnée au peuple d'Israël dans le désert. La manne est ici cachée, cachée car elle sera donnée au retour du Christ. Elle sera témoignage de cette réalité de communion que nous aurons avec celui qui est pain de vie. Elle sera ce pain de vie que nous partagerons avec le Christ. Le caillou blanc. Porté par ses vainqueurs. Dont les sens proposés sont très variés. Certains parlent de vote d'acquittement, d'autres d'une pierre précieuse qui serait sur l'éphod des grands prêtres. Oh, il y a bien des possibilités de comprendre ce caillou blanc, ce caillou. Mais je vous propose de non pas s'arrêter sur ce caillou, mais sur la couleur de ce caillou. le blanc. Car blancs sont aussi les vêtements des vainqueurs de l'église de Sardes. Blancs sont aussi les vêtements à acheter par les chrétiens de l'église de Laodicée. Blancs sont les vêtements de tous les anciens autour du trône. Blanc, le cheval du messager de Dieu. Blanche, les robes données aux martyrs. Blanche, la nuée qui accompagne le Fils de l'homme descendant du ciel. Blanc, le cheval du Christ vainqueur et les chevaux de son armée. Blanc, le trône de l'agneau immolé. Alors je vous rassure, il ne s'agit pas ici de faire l'éloge d'une suprématie de la couleur blanche, n'est-ce pas ? Parce que je vous rappelle qu'en Christ, il n'est ni blanc, ni black, ni beurre. Nous sommes un. Mais simplement, la couleur blanche revient dans l'Apocalypse pour nous rappeler cette pureté, ce pardon accordé par Dieu. Et ce caillou blanc est symbole de cette présence bienheureuse de Dieu. Car, chers amis, nous vivons les arts maintenant, mais un jour, nous aurons la joie d'être autour du trône blanc de Dieu, du trône de l'agneau immolé. Et nous serons autour de lui, avec ce nom nouveau, ce nom promis par le prophète Ésaïe au chapitre 62 et 65. Un nom dont on ne connaît pas grand-chose, si ce n'est que c'est celui du Christ. Nous avons, chers amis, un nom nouveau, un nom de famille nouveau, que l'on pourrait dire chrétien. Et c'est là, dans cette espérance d'avenir, que nous touchons le message de l'Apocalypse. Le message de l'Apocalypse n'est pas fait pour dire une réalité mythologique, ni dire exactement dans les détails tout ce qui va se passer au mille ans près. Le livre de l'Apocalypse est un message d'encouragement et d'espérance adressé à une église qui souffre, une église qui pourrait être tentée de baisser les armes. Le message de l'Apocalypse est message d'espérance. Car un jour, comme nous pouvons lire au chapitre 7 de l'Apocalypse, celui qui est assis sur le trône les abritera, les chrétiens, dans sa demeure. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. En guise de conclusion, je voudrais vous inviter à réfléchir. Est-ce que nous aurions répondu favorablement à la proposition de Matthias, le promoteur immobilier du départ ? Est-ce qu'il faudrait acheter une maison à Pergame ? Je crois. Je crois que dans ces ténèbres, bien sûr, l'Église est lumière. Alors, la question suivante est comment aurions-nous fait pour vivre dans ce relativisme ambiant et dans cette menace grandissante pour notre foi ? Alors, c'est vrai, nous avons grosso modo le privilège de pouvoir y répondre assez facilement, assez apaisément, pourrait-on dire. Mais il est des chrétiens pour qui ces questions-là sont d'une actualité forte et brûlante. Pour autant, l'Église de Pergame nous pose quand même des questions. Quels sont les lieux dans nos vies où il serait tentant de jouer double jeu ? Pour caricaturer un peu les choses, quels sont les moments où je pourrais me dire chrétien le jour et non chrétien la nuit ? Quels sont nos lieux de compromis ? Quelles sont les idoles de nos vies qui entrent en concurrence avec notre foi ? Et c'est vrai, nous vivons dans un monde où il n'est pas une vérité, mais plusieurs. Il n'est pas une bonne façon de vivre, mais plusieurs. Il n'est pas une bonne justice, une bonne morale, mais plusieurs. Dans la mesure même où c'est moi qui la façonne. Alors, dans un tel monde, il est différentes divinités, différentes allégeances possibles qui peuvent rentrer en concurrence et compromettre notre fidélité au Christ. Et Jésus, lui qui est venu plein de grâce et de vérité, nous invite à marcher en vérité, dans l'amour. Il nous invite à vivre ensemble dans cette quête, dans cette recherche de fidélité perpétuelle à la vérité, mais sans faire l'économie de l'amour. Nous ne pouvons pas vivre fidèlement à la vérité, vivre fidèlement notre foi à la vérité sans l'amour. Amour et vérité sont les deux piliers de notre marche chrétienne. La vérité sans amour, chers amis, ne sert à rien. Et l'amour sans vérité glisse vers un sentimentalisme dangereux. Mais le Seigneur, plein de grâce et de vérité, est là. Il nous précède, il nous a précédés sur ce chemin vers lequel, en Église, il nous invite à marcher. Que Dieu nous aide donc à demeurer fidèles au beau nom que nous portons, celui de chrétien, qui nous aide à avoir la force de vivre, car nous ne savons pas, et nous ne serons peut-être pas un jour si apaisés, si facilement aisés, sera-t-il pas si facilement aisé de témoigner de notre foi. Nous ne le savons pas. Mais que le Seigneur nous donne, en attendant la force, de vivre selon la vérité et dans l'amour, car il est lui, le seul Seigneur. Nous voulons confesser, non pas que César est Seigneur, mais que Jésus-Christ est Seigneur.